Vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon.
Jean-François Cadet.
Bonjour, bonsoir. Ce qui est formidable dans un festival comme Avignon, c'est qu'on peut s'immerger rien qu'en traversant une rue dans des univers très différents. Regardez trinquer Jack London dans la Maison du Loup et partir avec Benoît Solès et Tristan Petit-Girard dans le Klondike ou à l'Assaut des Mers. Mettre tous ses sens en éveil, s'ouvrir aux émotions et faire corps avec l'univers singulier et poétique de Nathalie Béas. Comprendre avec Thucydide et Baïgui Marin les mécanismes de la guerre et de la fabrique de la violence. Revivre une chasse à l'homme à l'époque de la traite négrière dans le Saint-Malo du XVIIIe siècle avec la compagnie Les Apicoles. Et ce ne sont bien sûr que quelques exemples. Il y en a donc pour tous les goûts, tous les âges, tous les publics. L'essentiel étant bien sûr de ne surtout pas rester indifférent. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Nathalie Béas.
Bonjour.
Ceux qui vont contre le vent, c'est le titre de ce spectacle que vous présentez encore demain samedi, dimanche, lundi et mardi 13 juillet au cloître des Carmes. Ceux qui vont contre le vent avec des traits d'union entre chaque mot. C'est important ces traits d'union ?
Oui, très important. C'est le lien en fait entre le groupe en fait. C'est un titre qui vient d'un peuple amérindien, les Omaha. Donc qui s'appelait ceux qui vont contre le vent, et donc ça s'écrit avec des tirets, donc j'ai gardé ça, et j'aime cette écriture là, j'aime ce que ça représente, l'image du groupe et l'image du lien et l'image aussi d'avancer malgré les obstacles.
Oui, aller contre le vent, ça veut dire effectivement avancer malgré les éléments, les embûches, les obstacles. Ça veut dire aussi ressentir les effets de ces obstacles sur le corps, sur l'esprit, sur les émotions. Ça veut dire trouver l'énergie et l'envie de continuer à avancer malgré tout.
Oui. Oui, mon travail, il est beaucoup autour de ça, en fait. Malgré des difficultés parfois même à exprimer, là comme ici, les choses, même à essayer de trouver les bons mots, les mots justes pour exprimer ce qu'on fait, ce qu'on a envie de raconter. Voilà, on arrive par d'autres moyens en fait à les exprimer, par le corps, par une couleur, par une musique, par un objet, par un mouvement. Voilà, tout ça, c'est des choses qui s'emboîtent les unes aux autres pour essayer d'exprimer des choses profondes.
Donc avancer contre le vent et avancer ensemble. Ce travail sur le groupe qui est effectivement au cœur de votre travail artistique, est-ce qu'il a changé du fait du confinement, du fait de la fameuse distanciation sociale dont on parle évidemment beaucoup, pas seulement en France, mais dans le monde entier depuis plusieurs mois maintenant ?
Non. Non, il n'a pas changé. J'ai toujours travaillé autour de la choralité, de l'accolade, le lien des gens les uns envers les autres, tout ça. Donc j'ai continué à travailler ça. Cette création, elle a commencé avant la pandémie, donc j'ai continué à chercher ce que je cherchais avant en fait, et puis ça a peut-être renforcé plus ce que je cherchais.
C'est-à-dire qu'on aurait besoin d'avancer contre le vent aujourd'hui, besoin de ce collectif-là à exprimer par les mots, par la musique, par le corps aussi, par les bruits.
Bien sûr, on a besoin de l'autre en fait, de l'autre et de ce lien physique aussi, enfin pour moi qui est important. Et d'entendre et d'écouter, de parler, de voir la bouche qui s'active et pas d'être derrière des masques. Enfin, c'est tout ça, on en a besoin énormément.
Alors on l'a compris, hein, c'est le spectacle d'une tribu, hein, c'est le spectacle d'une communauté, c'est donc un spectacle choral. La question va peut-être vous étonner, Nathalie Béas, mais je l'ai déjà posée dans une émission et je me la pose depuis longtemps. Comment est-ce qu'on construit sur scène un bon brouhaha ? Puisque là, c'est un brouhaha qu'on a entendu, on n'a pas compris les mots que chaque personnage peut dire. Comment ça se construit, justement, cette atmosphère-là ? Comment faire naturel un brouhaha ?
Bah, je le C'est pas un concept, en fait. J'ai travaillé sur une montée d'engueulade, en fait. Mais j'ai pas essayé de.
Mais il y a un texte très précis que disent les comédiens, c'est des bons rythmes, comment ça se construit?
Ça part d'une situation très précise, et puis après, ça déborde sur quelque chose de plus large. Ça commence par deux, ils sont deux, et puis après, c'est le groupe. C'est pas une construction. Sur cette scène-là, alors que il n'y a rien d'improvisé mais justement sur cette scène-là, pour moi, c'est très musical, donc aussi c'est quelque chose de très physique, et donc il n'y a pas une écriture, tu diras ça comme ça à lui, etc. Ça revient maintenant tous les soirs, ils le redisent à peu près tout le temps la même chose, mais c'est plus un travail organique et physique plutôt qu'une écriture de dialogue, puisque moi, le texte, il est un peu prétexte. Hein. C'est quelque chose de sonore, justement. Mais c'est pas un brouhaha, c'est vraiment une montée, une tension qui monte plus que quelque chose qui fait comme un mouvement comme ça. C'est une tension plutôt que je cherchais.
Et cette dimension chorale, on la sent effectivement dès l'entrée en scène de vos sept acteurs. Comment est-ce que vous avez construit avec eux le spectacle? Autrement dit, quels outils vous avez utilisés pour sculpter les traits d'union dont on parlait tout à l'heure, pour faire tribu, si j'ose dire?
Alors, ce travail, il se fait tranquillement, on va dire. C'est-à-dire, on va avoir 11 semaines de travail sur plus d'une année. Et on est nomade, donc dans des lieux, des villes différentes. On a commencé en extérieur, à côté de Saint-Nazaire, sur la plage de Saint-Nazaire. Enfin, voilà, tout est prétexte à jouer, à essayer, les choses. Et donc, j'ai réuni des gens avec qui je bosse depuis longtemps. Après, il y avait deux nouvelles personnes. Et c'est vrai que l'esprit de groupe, il est très important, en fait, dans mon travail. L'esprit de famille, de meute, en fait.
Au plateau et en dehors ?
Et en dehors, oui. Oui, c'est la vie, quoi. Donc, si je veux parler de la vie, c'est important que... Et ce que j'ai envie de dire au plateau, c'est important qu'il soit aussi juste dans ce qu'on vit à côté, quoi, puisqu'on est tout le temps beaucoup ensemble sur une création. Donc c'est tout ça important, ce lien et cette vision aussi de la convivialité qui compte beaucoup dans mon travail.
Mon très cher, cela fait plusieurs semaines que je veux t'écrire. Prendre le temps de mettre enfin des mots sur toute cette histoire. Ça fait déjà 2 mois que nous nous retrouvons sans toi. Hier, je suis allée chez toi. J'ai rencontré ta mère. Je lui ai serré la main fort. Elle m'a remerciée. Je t'écris car je veux te dire merci. Ce soir, dans ma chambre, je sais que je t'écrirai encore. J'ai commencé à oublier ton rire. Je sens que les souvenirs s'effacent avec le temps. La dernière fois, je devais être encore qu'une enfant. Ce devait être pour une de ces fêtes. Je sens toujours le parfum que tu aimais porter pour les grandes occasions. Tu n'en manquais aucune. Nos retrouvailles se sont faites de plus en plus rares et les embrassades ont laissé place petit à petit à des moments plus froids que j'ai fini par détester. Je t'écris sans savoir si cette lettre te parviendra, mais j'ai tant de mal à me résoudre à vivre avec le si peu de souvenirs que j'ai de nous ensemble. Je voudrais tant te revoir. Là-bas, la lumière est forte, tu ne souris plus. J'attends la nuit.
Alors ce spectacle, Nathalie Béat, ce n'est pas du tout un spectacle bavard en termes de mots, mais il y a quand même quelques passages avec des textes, avec des textes forts, des textes que vous êtes allés chercher dans la littérature mondiale.
Oui, des textes qui me suivent depuis longtemps, qui me suivent, qui sont dans mes valises, en fait, comme les costumes, comme des objets. Donc il y a Rilke, il y a un poème de Rilke, il y a Duras, Flaubert, il y a Dostoïevski, et puis là, c'est des lettres qu'on a écrites.
Et ce sont des textes qui vous ont servi justement à construire aussi l'ensemble du spectacle autour des mots ou pas plus que ça ?
Mon travail, toutes les matières qui sont au plateau sont mises au même plan, en fait, au même niveau. Tout est partenaire de jeu, c'est-à-dire un verre, c'est le partenaire de l'acteur, la lumière, le texte, le son, le corps, enfin... Tout est matière à jouer avec, en fait. Et le texte, il n'est pas en avant, en fait. Il fait partie du corps. Enfin, pour moi, c'est comme une autre matière. Et ce n'est pas prioritaire, c'est avec, en fait. Et tout est avec. Tout ce qui nous environne, c'est global, en fait. J'ai une sorte de vision globale des choses.
Mais quand vous débutez le travail au plateau avec les comédiens, quels sont les premiers éléments que vous leur donnez ? Le point de départ.
Qu'est-ce que je leur donne ? Bah, par exemple, je peux leur donner de l'argile dans les mains. Et puis, ils touchent l'argile. Et puis, je leur demande de mettre des fleurs sur l'argile et puis de jeter ça par terre.
C'est vous qui leur demandez. C'est ouais. Pas une idée qui vient de vous les diriger en tout. Vous savez très précisément, lorsque vous montez sur le plateau avec eux ou lorsque vous êtes dans la salle, comment vous fonctionnez dans la salle, où vous voulez aller et où vous voulez les emmener.
Alors, est-ce que je sais, à des moments donnés, je sais exactement ce que je veux. Enfin, voilà, j'ai plein d'images en tête qui sont écrites dans des carnets. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est comme des passeurs de mon monde.
De votre monde à vous, c'est-à-dire ouais. qu'ils ne sont pas là pour faire des propositions, pour non. faire éventuellement... pour vous faire bifurquer dans un sens ou dans
Parfois,
un autre que vous n'auriez pas prévu.
Parfois, ça arrive, mais pas beaucoup, en fait. Non, je leur demande de me laisser rêver sur eux, en fait, et sur...
Vous vous servez d'eux comme d'une matière à rêve.
Ouais, exactement.
Et qu'est-ce qui vous fait dire, ça y est, c'est bon, on arrête là, j'ai précisément ce que je veux ?
Bah, c'est compliqué, en fait, hein, parce que là, il y a un mois, on va dire, j'avais dans un spectacle, j'en avais trois, je pense. Et j'aurais pu continuer, en fait, à inventer. En fait, le fait de retrouver le plateau après un an, c'est un puissant fond, quoi. Donc, il a fallu faire des choix. À un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'il y a Avignon, donc il faut s'arrêter, il faut écrire quelque chose. Donc, c'est comme un puzzle. J'ai un peu secoué la chose. Et puis, au fur et à mesure du montage, il a fallu que j'enlève des scènes. Mais je ne sais pas, oui, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait écrire quelque chose pour le répéter, pour travailler justement sur le rythme, et il fallait s'arrêter à un moment donné. Donc c'est de la broderie, hein. Donc rien n'est laissé au hasard, et tout compte, tout l'objet, le rythme, le lien, les choses invisibles. Donc il faut quand même un peu de temps pour digérer tout ça aussi pour l'acteur.
VMDN au Festival d'Avignon avec Nathalie Béas pour son spectacle « Ceux qui vont contre le vent au cloître des Carmes ». La musique, la scénographie, la chorégraphie, la peinture, les costumes, les objets, vous contrôlez tout, visiblement. Nathalie Béas, en fait, on a un peu l'impression, vous parliez d'argile à l'instant, moi j'ai pensé à la pâte à modeler, quoi. J'ai pensé à une sorte de jeu, on ne s'est pas très très éloigné d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu une enfant ? Est-ce que faire un spectacle de Nathalie Béas, c'est un jeu d'enfant, en quelque sorte, au premier sens du terme, évidemment ?
Alors je voulais dire, la musique, elle est de Julien Parcy. Hein. Je ne compose pas.
Rendons à Julien ce qui est à Julien.
Très voilà. Important, parce que c'est un huitième personnage aussi. Enfin, pas personnage, parce que je ne travaille pas sur le personnage, mais c'est un huitième acteur, on va dire. La musique est une huitième interprète. Et j'essaye de retrouver l'enfant qui est en moi, en fait. Hein, et puis...
De faire en sorte que le spectateur se sente lui aussi un enfant.
Exactement.
Une forme de jeu de miroir finalement avec,
d'être,
avec la salle.
Puis d'être dans un rapport aussi actif par rapport aux spectateurs, de pouvoir ouvrir d'autres portes de l'imaginaire et d'être dans l'instant présent, dans ce qui se passe, dans essayer d'être à l'écoute de nos sens intimes, intérieurs, de la vue, de l'oreille et des poils qui se dressent et de la gorge qui se serre. Et je sais pas, mais c'est pas une narration classique. Quoi, c'est une narration plutôt intime et voilà.
Alors c'est vrai que le spectacle passe d'un tableau à un autre. Il y a une très grande fluidité hein, entre les différentes scènes, entre les différents moments du spectacle. Et le spectateur, qui n'est pas forcément habitué à votre travail, il cherche forcément un fil rouge. Il se pose évidemment beaucoup de questions. Il se dit, est-ce que c'est une famille que j'ai devant moi? Est-ce que c'est un groupe d'amis? Est-ce que ce sont des collègues de travail pendant un séminaire, par exemple? Ça peut être un peu les deux ou un peu tout ça. Il essaie de trouver lui aussi des traits d'union, parce que vous fonctionnez avec les traits d'union, mais lui aussi, il essaie d'en trouver. Et finalement, en sortant, il n'en sait pas forcément beaucoup plus.
Non.
C'est pas grave?
Non, c'est pas grave. Non, ce qui importe, c'est qu'il ressente les choses. Enfin, c'est le ressenti qui m'importe, moi. C'est pas l'histoire. C'est que chaque scène... en plus, c'est acteur, pas acteur. Ils installent le décor, ils sont aussi techniciens. Et c'est des figures, en fait. C'est plus des scènes symboles, métaphoriques. C'est comme une fresque. Et c'est comme quand on voit une peinture, en fait. On regarde, on comprend pas tout, mais ça nous touche. On sait pas où, quoi. Et ça raconte pas forcément une histoire, mais c'est des couleurs, c'est des vibrations, c'est des... Donc voilà, c'est de la poésie. Comment expliquer la poésie? Comment essayer d'ouvrir son cœur et plutôt que son mental? Donc voilà, moi j'essaye de travailler là-dessus en fait.
Alors il y a effectivement des moments poétiques, oniriques, il y a des moments burlesques aussi. Vous avez une vraie influence cinéma aussi. Vous vouliez d'ailleurs, je crois, faire du cinéma. Il y a toute une dimension plastique. Et, on en a parlé à propos de l'argile tout à l'heure, mais il y a aussi évidemment cette dimension-là. Il y a des chutes, il y a aussi beaucoup d'inattendus. Est-ce que la volonté de surprendre est l'un des moteurs majeurs de votre création? Surprendre le public?
Alors,
et vous surprendre vous-même?
En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment dans l'instant présent et d'être dans du vivant. Et c'est vrai que si je m'ennuie à regarder quelque chose, je casse mon objet, je casse les codes. Enfin, je sais pas, j'essaye d'être aussi sur cette tour-là qu'on peut monter en cap-plat et puis faire tomber la tour et puis reconstruire autre chose. Et ça crée du burlesque, justement. Mais ça crée aussi la destruction, recréer de la construction.
Donc construire, c'est d'abord casser.
Ouais, c'est déjà, ouais.
Il faut faire table rase pour pouvoir ensuite imaginer autre chose.
Ouais. Mais c'est pour ça que, en fait, on n'a pas fait notre première. J'étais déçue, mais
à cause de la pluie, puisque ça se joue en extérieur, il faut le préciser.
En fait, et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a une sorte de nettoyage, en fait, une sorte de purification de quelque chose, et que c'était pas grave, et qu'on allait, justement par rapport aux obstacles et d'avancer, et de se servir justement de la contrainte et des embûches pour pouvoir avancer et être plutôt dans la joie d'être déjà là en fait.
Oui, donc créer un spectacle, mettre en scène, c'est s'adapter.
C'est s'adapter, ouais, c'est s'adapter, exactement. Et ça fait plus de 20 ans que je m'adapte.
Mais ceux qui vont contre le vent, Nathalie Béat, c'est peut-être aussi ceux qui vont contre la mode, ceux qui vont contre les présupposés, ceux qui vont contre les clichés, ceux qui vont contre les injonctions parfois aussi. Est-ce que vous avez l'impression d'être disruptive?
Je crois pas, je sais pas. C'est vrai que les codes, certains codes, ça m'intéresse pas. C'est vrai que quand je travaille par exemple avec des danseurs, je ne veux pas les voir danser, ou avec les acteurs, je veux pas les voir jouer. C'est peut-être parce que je viens des arts plastiques, j'ai pas le même rapport au théâtre ou à la danse, j'en sais rien. Mais en fait, mon travail est très intuitif et très organique. Il est pas, je me dis pas que j'irai contre quelqu'un ou contre la mode, par exemple. Je veux essayer d'être le plus honnête et d'être en lien avec le public. C'est ce qui me plaît, en fait. C'est créer du lien avec le public, mais sans... sans penser à quoi que ce soit extérieur.
Mais le public, il est composite, Nathalie Béa. C'est-à-dire qu'en sortant, chacun a son propre spectacle dans la tête, dans le cœur, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas.
Oui. Eh bien, c'est plutôt beau, en fait. C'est plutôt beau d'avoir cette variété, en fait, de sensations. En fait, on peut pas plaire à tout le monde. Et ça crée de la discussion, ça crée de l'échange. C'est ça qui est intéressant.
Donc le spectacle se poursuit effectivement à la sortie du Cloître des Carmes, en l'occurrence. Merci beaucoup Nathalie Béas. Ceux qui vont contre le vent, c'est donc au Cloître des Carmes, à voir encore demain et jusqu'à mardi prochain 13 juillet à 21h30. C'est une figure du Festival d'Avignon et du monde de la danse. La chorégraphe Maggie Marin poursuit son travail socialement engagé et nous propose cette fois un voyage dans le temps, dans l'Antiquité grecque, pour porter un nouveau regard sur la construction de nos systèmes de domination. Le titre de cette pièce sonne d'ailleurs comme une invitation y aller voir de plus près. Fanny Blechner a tenté l'expérience.
Sur scène, deux hommes, deux femmes, ils se lancent dans le récit détaillé de ces affrontements au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Épidamne est une ville que l'on trouve sur la droite en entrant dans le golfe d'Ionie. Elle a pour voisins les Tolentiens, des barbares de race illyrienne. La ville a été fondée par Corcyre, mais le chef de la colonie était Phalios, fils d'Ératocléides.
Régulièrement, des tableaux blancs sont dépliés, saturant presque l'espace et permettant d'afficher des cartes, des schémas vidéo à l'aide de petites maquettes. Ce sont aussi des chiffres, des noms qui s'accumulent sur des barres de métal vertical. Maggie Marin a imaginé ce dispositif.
J'ai eu besoin de rentrer dans des cartes et des noms, d'identifier aussi des régions, des stratèges, pour pouvoir me faire une idée de ce qui se passait. Beaucoup de gens ne prennent pas, et moi la première, la peine de, quand il y a un conflit mondial, en fait, dans une région du monde, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette guerre, en fait.
Comprendre pourquoi, comment des peuples en sont venus à s'affronter, c'est tout l'enjeu du texte de Thucydide, stratège et historien athénien, qui a participé à cette guerre.
Ce conflit amène finalement les voisins à s'entretuer, puisque Thucydide dit que le père tuait son fils, les gens s'entretuent quoi, pour des raisons qui sont absolument des questions de pouvoir qui sont bien au-dessus de leur capacité de compréhension du conflit même.
Il réclamait d'abord, de façon vexatoire, le rappel des bannis, car les exilés d'Épidamne n'étaient venus à Corcyre, où ils avaient montré les tombeaux des leurs et la parenté qui existait, s'en prévalant pour demander leur retour chez eux. Ils réclamaient aussi le renvoi des soldats et colons envoyés par Corinthe. Les gens d'Épidamne n'en voulurent rien faire.
Près de 2500 ans plus tard, les choses ont-elles vraiment changé?
Mais on pourrait tout à fait refaire la même pièce avec une autre guerre aujourd'hui en Syrie ou je ne sais quoi, avec les alliances qui se font, qui défend qui, à quel prix et quels sont les intérêts des uns et des autres. Voilà.
Une idée renforcée par les images suggérées alors que le récit se poursuit. Se succèdent sur un écran les portraits photos de Margaret Thatcher, Joseph Kabila, Jeff Bezos, Emmanuel Macron ou encore Christine Lagarde.
Ceux qui ont participé au monde tel qu'il est aujourd'hui et qui n'est pas très satisfaisant et ni très beau, quoi, qui ruine la planète, qui ruine les peuples. Les 40 dernières années ont été particulièrement fortes avec le néolibéralisme, Thatcher, Reagan et tous ces gens-là. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est déjà en route depuis bien longtemps.
Car le propos est aussi politique ici. Un comédien retourne à un moment des cartes blanches et s'affiche progressivement, lettre après lettre, cette phrase de Bertolt Brecht. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise.
Sous le terme de démocratie se cachent en fait des intérêts privés qui ne sont pas compatibles avec la notion de partage.
Les comédiens se déplacent assez peu, interchangeant tout de même leur place. Ici, il pourrait s'agir d'une conférence, d'un documentaire, un exposé peut-être, ou bien une narration performative, mais pas de danse à proprement parler. Maggie Marin s'en explique.
Je croyais que je m'étais débarrassée un peu de cette question, puisque ça fait déjà quelques années quand même que la danse est moins présente, disons. Là, pour le moment, surtout sur cette question de la guerre du Péloponnèse, c'est le texte qui s'est imposé. Il me semble que c'est important de renouer avec le narrateur, avec le fait qu'on se lise l'histoire, qu'on se lise des histoires, qu'on se les raconte.
Un moment pour se raconter des histoires, comme un retour à l'essence même du théâtre.
y aller voir de plus près. Le spectacle de Maggie Marin se joue donc ici à Avignon jusqu'au 15 juillet, relâche le 11 au théâtre Benoît XII. C'était un reportage signé Fanny Blechner. Allez, on part dans le off à présent avec tous les jours à 14h30 au théâtre du Chêne Noir jusqu'au 31 juillet. Le duo créateur de l'immense succès La Machine de Turing, récompensé par 4 Molières en 2019. Tristan Petit-Girard met en scène, Benoît Solès a écrit le texte et il joue. Aux côtés d'Amaury de Créancourt et d'Annie Planté. Tristan Petit-Girard, bonjour.
Bonjour.
Benoît Solès, bonjour.
Bonjour.
La pièce s'appelle La Maison du Loup et elle nous emporte, comme le dit le sous-titre, à la rencontre de Jack London, qui reste, on le précise d'ailleurs dans la pièce, l'écrivain américain le plus loup au monde. Alors, Benoît Solès, pourquoi London ? D'où vous est venue l'étincelle qui a allumé en vous la mèche de la création ?
Vous savez, souvent, le point de départ, il est mystérieux et à la fois accidentel et profond. Accidentel parce que l'étincelle, précisément, est déclenchée par un élément extérieur, mais la matière première, celle qui brûle, elle est là, elle est intense et elle demandait à être activée. En ce qui me concerne, après avoir senti que l'aventure Turing allait être forte et nous emporter vers quelque chose d'assez extraordinaire, au propre comme au figuré, parce qu'on a joué le spectacle beaucoup et un peu partout, est venue une question comme celle que l'on se pose quand on a gravi une montagne et qu'on regarde le beau paysage. On se dit, maintenant, il faut redescendre d'un côté ou glisser de l'autre côté. Enfin, il y a quelque chose de vertigineux. Et moi, l'idée qui m'est venue, mais je ne sais pas d'où, c'était l'idée du voyage. Et donc, je savais que j'allais chercher à parler du voyage, ce qui peut paraître un paradoxe au théâtre. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de pièces de théâtre qui se passent sur un bateau, vous verrez. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là qui m'attire, qui m'intéresse. Et en passant, j'étais donc à Avignon, et en passant rue des Teinturiers, je me suis arrêté dans une petite librairie à la recherche d'une bonne édition de L'île au trésor de Stevenson ou d'un bon vieux Kerouac sur la route. Et j'ai pensé à London et j'avais lu Martin Eden. Et puis j'ai trouvé un autre bouquin qui s'appelle Le Vagabond des étoiles et tout est parti de ce bouquin de Jack London.
Alors il se trouve qu'on a parlé du Vagabond des étoiles dans cette émission il y a pas tellement longtemps avec un certain Riff Reps qu'il a adapté en bande dessinée. J'ai cru voir son nom d'ailleurs quelque part sur l'affiche. On va peut-être en parler. Alors résumons. C'est compliqué de résumer Le Vagabond des étoiles, mais on était en confinement encore il y a quelques mois. C'est une forme de confinement et une forme de sortie du confinement par un voyage bien particulier.
C'est quelqu'un que l'on confine et qui se déconfine lui-même, si j'ose dire. C'est l'histoire du Vagabond des étoiles, c'est un homme qui se retrouve emprisonné et dans mis à l'isolement dans une cellule d'une petite taille et soumis à, comme si c'était pas assez petit, on l'enserre encore plus dans une camisole de force afin que les murs se rétrécissent encore et soient presque comme une constriction comme ça autour de son corps. C'est une forme de torture abominable. Et dans ce jusqu'au boutisme d'enfermement, le personnage du livre, par des événements qui assez complexes et que je ne veux pas trop raconter.
Non, mais que vous racontez dans le spectacle.
Qu'on raconte dans le spectacle, trouve un moyen qui s'apparente à l'auto-hypnose et de sortir de son corps par une forme de voyage astral. Donc, il part comme ça, pendant ses séances de camisole, visiter ses vies antérieures, comme un voyage paradoxal au moment où il est le plus contraint qu'il soit.
Et dans Le Vagabond des étoiles, il y a un personnage important qui s'appelle Ed Morel. Et vous avez eu l'idée de Benoît Solès de faire une rencontre entre le personnage, Ed Morel, et Jack London, une rencontre orchestrée par la femme de Jack, qui s'appelle Charmian London. Et tout l'enjeu de cette pièce, c'est de voir si Ed Morel va réussir à réveiller, en quelque sorte, un Jack London dont la folie et l'ambition créatrice se sont un petit peu émoussées. On peut dire qu'il s'est un petit peu embourgeoisé, quoi.
Oui, c'est le terme. Jack London, c'est le militant socialiste, l'homme qui se dit lui-même être né dans le caniveau et avoir voulu en sortir par à la force de toute sa rage et de tout son travail. Et une fois arrivé au sommet de la gloire et rencontrant succès et fortune, et bien justement, c'est peut-être cette histoire de montagne que je racontais tout à l'heure, il éprouve ce vertige et qui se traduit chez lui par une grande envie de descendre des bouteilles d'alcool et une grande difficulté à réempiler des pages d'écriture. Et sa femme le perçoit et voit chez lui cette perte de flamme, et dans un article signé par ce fameux Morel, sorti de prison parce qu'il s'en est sorti, elle trouve cette espèce de flamme peut-être que Jack n'a plus, et elle décide de le faire venir pour toujours, comme je disais tout à l'heure, frotter poser les deux cailloux l'un sur l'autre et faire jaillir l'étincelle.
Et donc, effectivement, le Ed Morel en question se retrouve à la Maison du Loup, mais ça démarre assez moyennement, puisque même avec quelques verres d'alcool, eh bien, l'étincelle a bien du mal à jaillir.
À Darwin, à l'évolution, ouais.
À Marx, à la révolution, ouais.
À Jack London, à l'étincelle.
L'étincelle. Quelle étincelle?
Celle que j'ai eue en lisant L'Appel de la forêt.
Bon, c'est qu'une histoire de chien. Une simple histoire de chien.
Simple histoire, mais grande leçon. Buck, ce brave chien, abandonné parmi les loups, c'est un peu chacun de nous, perdu dans la jungle du capitalisme. Il nous apprend d'abord la révolte et puis l'entraide, la solidarité.
la solidarité. Ah non, mais ton ami est fantastique. Il sait mieux que moi ce que j'ai écrit. Vous avez dû vous endormir avant la fin, mon vieux. Car pour survivre, Buck, il tue. Pour devenir chef de meute, il tue. Pour s'imposer auprès des autres loups, il tue. Si vous caressez pas ça, il va remuer la queue. Mais essayez de lui piquer son os. Bah allez. Allez.
Voilà, il y a beaucoup d'animaux d'ailleurs dans votre texte. Hein. Il est truffé de noms d'animaux, oui. Benoît Solès, votre texte. Et la pièce se passe, Tristan Petit-Girard, entre chien et loup. Hein. L'expression est d'ailleurs aussi dans le texte. Quelle est l'atmosphère que vous avez voulu installer sur le plateau et par quel biais avez-vous voulu procéder?
Alors, c'est l'atmosphère, j'essaie de restituer celle de la pièce et telle que je la ressens. Et il y a un côté très Tennessee Williams dans l'écriture de Benoît. D'ailleurs, la première pièce qu'il a écrite, avant même La Machine de Turing, c'était une pièce sur Tennessee Williams que j'avais vue. Et donc, on a envie de sentir la nature, de sentir la chaleur, de sentir la lumière. Donc, j'ai travaillé sur le son, sur l'ambiance sonore, sur cette sensation de chaleur. Cette maison, vous parliez de Riff Rebs, on a voulu une scénographie avec Benoît qui nous fasse voyager. Donc par exemple, au lieu d'avoir un cyclo traditionnel, un cyclo pour les auditeurs, c'est ce qui permet de mettre de la lumière au fond d'une salle de théâtre, ça met tout d'un coup le ciel bleu. Et bien là, j'avais pas envie de ça. Avec notre scénographe Juliette Azopardi, qui a fait un travail formidable, vu que Jack London était un grand voyageur, elle a eu cette idée de nous mettre une gigantesque voile de bateau. Donc faut vous imaginer, on peut la faire plus ou moins grande, mais aux chaînes noires, vous avez une voile de bateau qui fait 8 mètres avec une voile qui descend, sur laquelle on projette les illustrations de Riff Rebs, ce grand illustrateur, et qui nous permettent de passer du jour à la nuit. On travaille, moi c'est mon 20e spectacle avec Denis Schlepp qui fait la lumière, ouais. Et entre chien et loup, c'est vrai que la lumière est beaucoup louée dans ce spectacle. Benoît avait écrit des choses très précises, par exemple, il y a des événements où tout d'un coup dans le texte, parce qu'il a cette notion de dramaturgie, où tout d'un coup, dans le texte, il est écrit précisément que le soleil se couche. Alors, je ne vous dis pas à quel moment, mais non. C'est vrai que tout ça influe et que la lumière devient un élément charnel du spectacle, à proprement parler. Et après, on a eu envie d'être aux États-Unis. Et donc, on a travaillé avec Romain Trouillet, qui était aussi le musicien de La Machine de Turing. Et donc, il a travaillé avec une guitare slide. C'est assez drôle parce que c'est une guitare qui a été inventée à Hawaï. On connaît les voyages de Jack London à Hawaï. Et donc, la légende dit qu'on a pris... c'est une guitare qui se joue sur les jambes. Et on a pris un petit bout de chemin de fer, comme ça. Et c'est en frottant avec les bouts de chemin de fer qu'on la joue comme ça. Et donc, tout ça amène entre voilà, cette lumière, cette scénographie où il y a une chaloupe sur scène, où il y a une voile de bateau, où il y a cette lumière. Tout ça, ça nous amène la chaleur, les États-Unis. Et j'espère nous fait voyager.
Et c'est Amaury de Criancourt qui joue le rôle de Jack London. C'est un personnage qui ne doit pas être évident à jouer parce que dans le récit il trimballe tout son passé d'aventurier, chercheur d'or, etc. Et là, comme on le disait à l'instant, eh bien, il est un peu dans une situation de faiblesse, quoi. Il a plus l'aspiration, il a des gros problèmes d'alcool, c'est mieux qu'on puisse dire. C'est un personnage un peu sur une ligne de crête, non?
Ah oui, mais c'est ce qu'adorent les acteurs. Il y a une phrase magnifique de Gérard Depardieu qui dit: je cherche les personnages avec des failles parce que c'est par là que passe la lumière. Donc évidemment, Benoît, en tant qu'auteur et aussi interprète, il a écrit des personnages qui ont des failles énormes. Et ça, pour nous, c'est merveilleux pour le metteur en scène et pour les acteurs. Et par exemple, tout le travail sur l'ivresse qui gagne petit à petit à Maurice a été de lui dire, je me suis inspiré d'une interview que j'avais vue de Paul Newman, qui a joué La chatte sous un toit brûlant avec Elizabeth Taylor, et il disait sur l'alcool, j'ai travaillé tout en voulant ne pas montrer que je suis sous. Et en fait, ça désinhibe vos sentiments, ça désinhibe votre colère. Mais je ne joue pas comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout d'un coup, il a cette force pour pouvoir... Et du coup, ça permet d'avoir ce contraste. On a beaucoup travaillé avec Benoît sur cette animalité, la lumière chien et loup. Elle se retrouve vraiment entre Benoît, Amaury et Anne, qui est peut-être la louve Anne Plantet qui va orchestrer tout ça, avec ce conflit qui est très intéressant. C'est que on a le personnage d'Ed Morel que joue Benoît, qui lui vient pour essayer de sauver la vie d'un homme, Jacob Heimer, qui est condamné. Charmia ne veut redonner la flamme. Lui, au départ, ne veut pas vendre son histoire. Il veut sauver la vie de cet homme. Et donc, il y a un vrai enjeu, un vrai conflit de vie, de mort, pour donner une renaissance à Jack London.
Si notre pauvre petit pilleur d'huîtres est devenu riche, il est devenu grâce à son travail, sa volonté, et ses histoires d'hommes, de loups et de chiens. Il est devenu riche parce qu'il les a écrits. C'est 1000 mots par jour. C'est putain de 1000 mots par jour. Il les a écrits seul, sans l'aide de personne.
Vraiment? Même pas pour les descriptions?
C'est pas la cerise qui fait le gâteau.
Mais quelle est l'étape? C'est 1000 mots par jour.
Si tu crois que c'est là que ça se gagne.
Mais comment peux-tu?
Mais ton dragon là, le capitalisme.
Ça suffit maintenant, ça suffit.
Moi, je l'appelle ambition.
Arrivisme.
Obstination.
Opportunisme.
Détermination.
Égocentrisme.
Et ce dragon, moi je le chevauche. Et je m'envole avec. Pour aller rejoindre mon château. Et quand j'en sortirai, les pieds devant, tu pourras en arracher le plus gros bloc et y faire graver dessus C.J. Jack London. Pilleur d'huîtres, pareur de navire, écrivain besogneux, chercheur d'or, vagabond et grand buveur devant l'éternel. Tu pourras me laisser pourrir dessous. Dans ce petit enclos en bois, tu sais, dans la forêt, et y verser une bouteille de niol pour que je puisse me saouler une dernière fois en embrassant le squelette de l'enfant que t'auras jamais su me donner!
Violente dispute entre Jack London et sa femme Charmiane. Enfin, sa femme, pas vraiment, parce que Tristan Petit-Girard, ils emploient un autre mot, ils emploient le mot partenaire.
Partenaire, c'est magnifique, c'est historique d'ailleurs, je crois, Benoît, et c'est magnifique parce que ce sont des partenaires de couple, ce sont des partenaires de travail,
d'écriture.
Elle écrivait beaucoup des descriptions, comme on peut l'entendre dans cet extrait.
Oui, les descriptions ennuyaient un peu Jack London.
Oui, ça l'ennuyait.
Il sous-traitait.
Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir cet homme qui est à un moment où il est dégoûté par l'écriture. C'est ce qu'a trouvé Benoît, et nous, on a l'image de Jack London qui adore écrire, et il écrivait 1000 mots par jour, et c'est devenu une souffrance terrible.
Le mot partenaire, Benoît Solès, c'est aussi un mot de théâtre. C'est quoi pour vous un partenaire de scène?
Le partenaire, c'est avant tout celui qui sait écouter. C'est très important au théâtre, quand on joue ensemble, de savoir s'écouter. C'est l'acte le plus généreux qui soit, puisque c'est un moment où par définition on est silencieux. On écoute l'autre. Il y a quelque chose de faussement passif, parce qu'en fait, dans votre œil, quand vous écoutez vraiment, votre esprit est en mouvement. En fait, vous jouez, vous êtes actif. Et c'est difficile de bien écouter, parce que par définition, vous connaissez la pièce et vous savez ce que votre partenaire va vous répondre dans quelques instants. Mais la capacité à se projeter dans le présent et de savoir jouer, que vous entendez pour la première et la dernière fois ce que vous êtes en train d'entendre et que vous ne savez pas ce qui se dira dans la seconde suivante, c'est la marque des plus grands acteurs.
Bon, en tout cas, vous connaissez le texte, évidemment en tant qu'acteur, mais en tant qu'auteur aussi, puisque c'est vous qui l'avez écrit, cette double casquette-là. Est-ce que ça complique pas un peu le travail du metteur en scène, Tristan Petit-Girard?
Ça la compliquerait si on n'était pas en complicité dès le travail. C'est-à-dire que Benoît me fait lire toutes ses versions, et tout d'un coup, si on a une idée de mise en scène, on peut l'inclure.
Donc vous êtes présent dès le travail d'écriture.
Ah,
vous n'arrivez pas après.
On est des partenaires. Nous.
Voilà. On est des partenaires, nous aussi. Et après, et dans l'étape qui est pour Benoît, qui arrive sur la fin des répétitions, c'est une fois qu'il a vu parce qu'en même temps, il continue de travailler la pièce, il continue de la travailler, on est un auteur vivant. Donc vu qu'il a un grand sens du théâtre, il continue de travailler. Et puis il y a un moment, c'est vrai, qu'il arrive à faire plus ou moins tôt, il doit lâcher sa casquette d'auteur pour redevenir acteur complètement. Et ça, il le fait, mais dans les dernières répétitions, parce qu'il y a un moment où il veut être sûr, forcément, que la pièce est complètement bouclée. Et on a fait même des coupures jusqu'à arriver à Avignon pour que la pièce soit parfaite. Et là, tout d'un coup, et moi, c'est magnifique à voir ce moment, le voir quitter complètement ce personnage d'auteur, parce qu'il est à la fois auteur et acteur, pour tout d'un coup devenir l'interprète. C'est assez magique, c'est l'éclosion, quoi.
Puis, dernière question, il y a un mot de la musique, quand même, parce que c'est à la fois très beau. On parlait des objets, hein, dans le décor, il y a un phonographe qui est important sur lequel évidemment tourne un disque et on entend un air d'opéra, un air très très connu. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes allé chercher Bizet ?
La romance de Nadir, alors c'est venu parce que j'ai lu que Jack écoutait Caruso sur son phono là, et j'ai pensé à une musique et cet air s'est imposé parce que Jack London était un pêcheur d'huîtres dans sa jeunesse, avec cette fameuse chaloupe qui d'ailleurs est échouée sur dans son jardin. Et cet air-là, extrait des pêcheurs de perles de Bizet qui parle d'une nuit, de deux pêcheurs amoureux de la même femme. C'est une espèce de code en fait de la pièce. Ça parle d'une nuit d'ivresse, d'une nuit d'amour. Et elle a dans sa nostalgie, dans son rythme, quelque chose qui a bercé mon écriture au sens propre du terme, comme le flux et le reflux d'une vague. Et le prologue et l'épilogue sont posés comme ça, comme des feuilles qui flottent sur l'eau quelque part, là où Jack aurait pu aller croiser à bord du Snark.
Eh bien, on va embarquer avec vous, messieurs. Merci beaucoup, Tristan Petit-Girard, Benoît Solès. La Maison du Loup, à la rencontre de Jack London, à 14h30 au Théâtre du Chêne Noir. Relâche les lundis.
Les espaces de travail, la destinée sur des rails et les bonnes manières. L'éducation civile, les obligations débiles, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les technologies de pointe, les numéros, les empreintes, les horreurs ordinaires. Le sang, les effets spéciaux et les réseaux asociaux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se taire? L'humanité qui s'écrit à coups de poing sur les i d'une vieille histoire. Le reflet froid d'une lame qui se glisse au fond de l'âme, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? La réalité féroce de la peau et puis de l'os comme une ombre au miroir. Le vieillissement du corps, la photo d'un enfant mort, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir pour le croire? Qu'est-ce qu'il faut pas rêver pour aimer?
Humbert Humbert dans VMDN sur RFI, Humbert Humbert en résidence à Avignon qui présente dans le off son spectacle Caprice d'un enfant de 300 000 ans. C'est au théâtre de l'Arrache-Cœur. Toujours dans le off, la pièce Sans négrier revient. Après son succès en 2018, la metteuse en scène Khadija Elmadi adapte cette nouvelle de Laurent Godet avec le comédien Bruno Bernardin, seul en scène. Une histoire d'esclavage dans les rues de Saint-Malo en Bretagne, grand port négrier du XVIIIe siècle. C'est donc au théâtre des Barriques. Reportage Alexandra Géchi.
Aujourd'hui, oui, je revois tous ces instants.
Sur une petite scène, un décor simple, deux éléments en bois qui figurent à la fois le cadavre d'un bateau et les portes d'une cité, avec pour seul éclairage un petit faisceau lumineux dirigé vers le visage du comédien Bruno Bernardin.
Tout avait commencé à Gorée, au large du Sénégal, lorsque le capitaine Bressac eut la mauvaise idée de mourir. Nous y mouillons depuis 12 jours, le temps d'acheter le bois d'ébène et de le charger à bord.
Devant un public attentif, le commandant d'un navire négrier raconte une chasse à l'homme dans les rues de Saint-Malo pour retrouver 5 esclaves échappés du bateau. Pendant près d'1h10, Bruno Bernardin dévoile un personnage tourmenté. Seul sur scène, le comédien fait preuve d'une énergie bouleversante.
On va retrouver ces nègres et on va leur faire passer le goût de la liberté.
Le personnage, c'est quelqu'un qui est torturé, en fait. Il raconte ce qu'il a vécu et comment est-ce qu'il est devenu fou par la conséquence de ses actes et comment est-ce qu'une porte s'ouvre sur des actes barbares. Comment est-ce qu'en fait ça peut attirer la ferveur de tout un peuple autour de lui, de toute une ville.
Une fois retrouvés, les esclaves seront alors assassinés.
Le premier fut abattu 1 heure, à peine après le début du couvre-feu. Le coup de mousquet fit sursauter les rats des ruelles.
Sur scène, le comédien revêt alors un masque fait sur mesure et digne de ceux de la Commedia dell'arte, une idée de Khadija Elmadi, metteuse en scène.
Dans le spectacle, le masque arrive à un moment où il y a une folie qui s'empare non plus seulement du personnage, mais de toute la ville. Et on retrouve l'esprit des places de grève où la mise à mort d'un individu est un spectacle. On est tombé quand on cherchait les musiques donc sur des chants lié à l'esclavage, et il y avait toutes ces pendaisons, Hanging the Nigger, où les gens faisaient ce qu'on appelait des barbecues. Donc oui, il y avait des hommes, des femmes qui étaient pendus à des arbres, et les gens buvaient, mangeaient, dansaient, chantaient.
La musique joue donc un rôle important et vient sublimer l'écriture de Laurent Godet avec Duke Ellington, Mahalia Jackson ou encore Vivaldi.
On a trouvé des compilations de chants qui étaient liés à l'histoire de l'esclavage, et tout au long des répétitions, on écoutait les chants et certains nous ont touchés. On a vu des liens avec l'œuvre. Certains chants ne correspondent pas à l'époque où le récit a lieu. Et on trouvait ça intéressant d'ouvrir l'espace à toutes les mémoires qui existent et qui sont liées à l'esclavage.
Khadija Elmadi et Bruno Bernardin continuent d'ailleurs d'explorer les textes de Laurent Godet car ils adaptent Salina, les 3 exils, au printemps 2022.
Sans négrier au théâtre des Barriques jusqu'au 29 juillet, c'est à 13h05 tous les jours sauf le mardi. Un reportage signé Alexandra Géji pour VMDN. Ainsi se termine notre dernière émission de la saison. Merci à notre équipe d'Avignon, Alexandra Géji donc, mais aussi Fanny Blechner, Philippe Nadel et Steven Elsley. Merci aussi à ceux qui sont restés à Paris, Baptiste Antoine et Juliette Guéguin, et qui m'ont beaucoup aidé à les préparer, ces émissions avignonnaises. Sans oublier Marjorie Bertin, Amélie Beaucourt et Alain Pilot. On se retrouve le 30 août après la pause estivale. Lundi, vous avez rendez-vous avec Hortense Vol et Benjamin Sarallier pour leur émission musicale Session Lab. À très bientôt donc, et vous m'en direz des nouvelles.
RFI.